tourner vers le professeur Jean-Germain Gros. Professeur, on l'a dit en début d'émission, le 9 novembre 2015, Timothy Wolf, président de l'Université du Missouri, annonce sa démission à la suite d'une série de manifestations. Vous qui vivez dans le Missouri, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce qui s'est réellement passé pour qu'on en arrive là?
Bon, je dirais que ce qui s'est passé, ce qui est arrivé au président Timothy Wolf était tout à fait prévisible. Alors, dans le premier temps, il y avait les émeutes à Ferguson. Ferguson est situé à seulement, je dirais, 120 kilomètres de Columbia. Mm-hmm. Donc, il y a premièrement l'effet Ferguson. En deuxième temps, il y avait un étudiant, le président des étudiants à l'Université de Missouri, qui avait subi une attaque verbale de la part de l'un de ses camarades. Et dans le troisième temps, il y avait un étudiant qui avait décidé de poursuivre une grève de la faim. Alors, ces trois facteurs, l'effet Ferguson, les tensions raciales et la décision de l'étudiant d'entreprendre une grève de la faim, tout cela a contribué à la défaite, si je pourrais utiliser ce mot, de Timothy Wolf. Donc, il y avait une convergence de facteurs qui ont contribué, n'est-ce pas, au dénouement de Timothy Wolf.
Alors, professeur Gros, est-ce que la démission du président résout les problèmes des étudiants?
Bon, pas tout à fait. Il y a eu depuis deux semaines une certaine accalmie de la situation avec la démission du président Wolf, mais la situation n'est pas totalement résolue.
On revient vers vous dans quelques instants. On va prendre un auditeur au bout de la ligne. Il s'agit de Ouedra Ogo Youssouf. Bonsoir.
Oui, bonsoir Lyndon. Bonsoir aux invités à la rédaction, aux auditeurs de La Voix de la Liberté.
Alors, vous nous avez envoyé un message sur Facebook. Je vous laisse le soin de revenir sur ce que vous nous avez dit.
Oui, d'abord, Lyndon, moi je pense que ces violences sont assez déplorables quand on sait que l'éducation constitue le ciment d'une société qui se veut civilisée et respectueuse des droits fondamentaux. Alors, pour ce qui est des États-Unis, le phénomène comporte une variante de revendication politique et sociale avec en ligne de mire la discrimination, les inégalités sociales ou raciales ou encore les disparités au sein de la société américaine qui constituent à jamais un trou dans le leadership civilisé de notre monde.
Tout à fait.
Alors, quant à l'Afrique qui vit essentiellement sur des gouvernances personnalisées comme c'est le cas au Cameroun ou au Tchad, etc. Alors, ce sont toujours les mêmes points de revendication dans presque tous les États depuis des années, conduisant parfois à des pertes en vie humaine, comme ça a été le cas cette semaine à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais en vérité, la vie étudiantine est vraiment très pénible avec une situation désespérante dans la plupart des pays où les étudiants sont soumis à un traitement dérisoire, au-delà même des apparences que les États donnent. Le surpeuplement, par exemple, ou le manque d'équipement, etc., constitue un véritable défi à relever pour les gouvernants. Mm-hmm. Et on est en droit de se demander quelle importance nos autorités accordent réellement à l'éducation dans un monde de plus en plus embarqué.
Alors, justement, question Ouedra Ogo, quelle importance, justement, les autorités en Afrique accordent à l'éducation?
Alors, je pense qu'au-delà même des étudiants, c'est tout le système éducatif qui est malade, à l'image même de la difficile vie sociale de notre génération. Il faut prendre à bras le corps ces souffrances inqualifiables, car les effets d'une éducation à la base ratée constituent un véritable danger pour la société. Il est important de mesurer les conséquences d'une telle délinquance irrationnelle à l'égard de la jeunesse. Autant dire que l'éducation n'a pas de prix, il faut se donner les moyens pour la prospérité harmonieuse d'un monde de pluralité, des idées, de contradictions et de tolérance. On ne peut plus d'efforts à l'éducation, c'est consacrer, c'est contribuer à l'effort de paix dans un monde de plus en plus divisé, livré à la violence, comme on le vit depuis un certain temps, et c'est vraiment déplorable.
Alors, Youssef, on a comme invité dans l'Amérique et vous ce soir le professeur Jean-Germain Gross de l'Université du Missouri et puis Corentin Tala, qui est ancien président d'un mouvement étudiantin camerounais qui a beaucoup fait parler de lui dans les années 90. Vous avez une question pour l'un d'eux?
Alors, ce que je voudrais poser comme question, pour nous qui sommes africains, quand on vit ce que les étudiants ou la minorité noire vit aux États-Unis, on la traverse de façon pénible. Ce que je voudrais demander au professeur, c'est que comment peut-on expliquer que après tant d'années que les États-Unis n'arrivent toujours pas à se donner d'eau aux inégalités que traverse la minorité noire, et comment faire, malgré la présidence du président Barack Obama qui tend vers la fin de son deuxième mandat, ces problèmes sont restés comme ils étaient, sans qu'il y ait un véritable changement. Et nous, on a du mal vraiment à situer les responsabilités. Et comment faire pour sortir de ce socle-là?
Alors, professeur Rose, vous répondez à cette question?
Bon, c'est une très bonne question. Je dirais en tout premier lieu que l'élection du président Barack Obama était un pas dans la bonne direction, mais c'était seulement un pas. Les problèmes de nature raciale aux États-Unis sont extrêmement complexes. Donc, il serait naïf de penser que l'élection de Barack Obama allait résoudre des problèmes qui durent depuis des années. Donc, on peut dire que les États-Unis, nous avons fait beaucoup de progrès, mais cependant, il reste encore beaucoup à faire, car il y a des institutions qui sont vraiment réactionnaires, si je peux utiliser ce mot. Donc, elles ne veulent pas des changements radicaux. Donc, l'élection de Barack Obama, je ne veux pas dire que c'était quelque chose de superficiel, c'était très intéressant, c'était très important, mais au-delà de l'élection de Noir à la magistrature suprême de la nation, il faudrait avoir des changements au niveau des institutions de base, les universités et d'autres institutions qui pourraient vraiment résoudre ce problème à long terme. Alors, voilà, c'est ma lecture de la situation.
Merci.
Il y a eu beaucoup de progrès aux États-Unis, mais nous avons encore beaucoup de progrès à faire.
Merci, professeur. Corentin Tala, pourquoi est-ce que les autorités en Afrique sont souvent obligées de recourir à la force? Lorsque vous étiez président du Parlement dans les années 90, est-ce qu'il vous est arrivé, par exemple, d'engager un dialogue serein avec ces autorités et que cela ne marche pas?
Ah, tout à fait. Les autorités au Cameroun ont l'habitude d'être réfractaires au dialogue, parce que pour eux, ils veulent une pensée unique, ils veulent toujours, les autorités veulent toujours imposer une façon de penser aux gens, imposer une façon de faire. Et cela est d'autant plus accentué que le tribalisme a fait son nid, par exemple, dans le campus, sauf que c'est que les autorités voyaient des choses, les revendications estudiantines, dans le prisme du tribalisme.
Tout à fait.
Au peu que l'on revendique et que l'on soit d'une région, on s'est dit non, ce sont des gens, les politiques de cette telle région, qui sont en train de vouloir fragiliser le gouvernement. Donc cela ne facilitait pas le dialogue entre les étudiants et les autorités, malgré qu'il y avait des sérieux problèmes d'inadéquation entre la population étudiantine et les structures universitaires, du pouvoir d'achat des étudiants, et le dialogue n'était pas facile, et c'était toujours le recours à la force. Et c'est pas facile de maintenir une situation pareille, parce que l'université, c'est le creuset du savoir. C'est là où peuvent éclore des nouvelles idées. Il y aura toujours des revendications, tant qu'existeront des universités. Au-delà même,
mais
refus du gouvernement de dialoguer.
Mais ces autorités peuvent également vous retorquer que vous n'êtes pas patient, vous manquez de méthode dans la manière de demander ou de faire des revendications. Que répondez-vous s'ils le disaient?
Non, Donc, je dirais tout à fait que c'est une fuite en avant des autorités, parce que nous avons, à l'époque, en 1991, nous avons écrit un mémorandum aux autorités, et un mémorandum qui soulignait tous les problèmes que nous avions à l'université, et ce, il n'y a jamais eu de réponse à ces mémorandums. Nous avons voulu participer aux élections à l'université pour élire des représentants d'étudiants légitimes. Les autorités ont annulé ces élections. Mmh. Et en lieu et place de l'annulation des élections, ils ont imposé aux étudiants des leaders qui devaient servir sur une base tribale, c'est-à-dire les leaders de la tribu du président de la République, qui les bêtises, ils ont imposé les leaders de cette tribu qui devaient seulement servir les intérêts du pouvoir et non les intérêts des étudiants. Donc, il y a toujours eu tentative de dialogue entre les étudiants et les autorités, mais pour des raisons tribalistes, pour des raisons d'intérêt que nous ne savons pas, le gouvernement a toujours fermé la porte à ce genre de dialogue, d'échange constructif.
Merci Corentin. On va partir à Bamako pour retrouver Bakary, qui a certainement quelque chose à dire dans ce débat. Bakary, bonsoir.
Ah, bonsoir.
Alors, on t'écoute.
Oui, quand même, c'est un débat intéressant. Vraiment, moi, je crois que le mouvement syndical étudiantin, souvent au Mali, c'est vraiment ce mouvement quand même a tendance quand même à dévier au profit quand même des buts lucratifs. Par exemple, même lors des élections, par exemple, les étudiants se présentent souvent avec des gourdins, souvent avec des machettes. Est-ce que vous voyez ? Souvent aussi vraiment avec les grèves pléthoriques, vraiment ça laisse vraiment à déplorer. Et aussi, je dirais aussi que les dirigeants aussi, la plupart des dirigeants africains, c'est-à-dire n'accordent pas assez de valeur aux études quand même en Afrique ici, parce que la preuve en est que, par exemple, les présidents de la République ne laissent pas assez que leurs enfants étudient quand même dans leur pays d'origine, ils les envoient soit en France, soit aux États-Unis. Cela laisse vraiment à déplorer.
Alors, merci Bakary. On va aller retrouver Bundu Kouraba qui est au téléphone. Bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur.
Alors, les étudiants, ce débat sur le militantisme étudiantin, qu'est-ce que vous en dites?
D'accord. Ok, je suis ravi de recevoir votre appel ce soir. Bon, franchement, le problème estudiantin, ce n'est pas du tout facile. Pas chez nous ici. Bon, les étudiants ont beaucoup de problèmes. Des fois, attendre leur bourse, ça vaut des problèmes.
Tout à fait.
Après, cette bourse aussi, les conditions de vie donc, qu'ils mènent là-bas, c'est tout à vaut autre chose.
Tout à fait.
Maintenant, de ça, franchement, en Guinée, chez nous ici, bon, il y a un problème majeur d'abord, car les universités ne sont pas bon, unies en général. Parce que des fois, une université peut avoir des problèmes. Bon, les autres ne sont pas concernés, ils ne vont pas se mêler. Bon, quand ceci-là arrive à se manifester, ça ne concerne que ceci-là.
Voilà. Donc, merci pour ta réaction. Je vais revenir sur le professeur Gross. Alors, on l'a suivi tout à l'heure, nos intervenants au téléphone soulèvent des problèmes de moyens dans les universités en Afrique. On a envie de dire aux États-Unis, ils ont tous les étudiants. Qu'est-ce qui fait problème pour qu'ils manifestent?
Bon, aux États-Unis, je dirais que le problème n'est pas nécessairement un problème économique.
Tout
c'est
à fait.
Surtout un problème social. Chez les étudiants noirs, surtout, on a le sentiment qu'on banalise nos préoccupations, qu'on ne nous prend pas au sérieux. Il y a aussi un sentiment d'exclusion. Donc nous ne faisons pas partie, les étudiants, je dirais, ne font pas partie des décisions que les dirigeants prennent et qui vont directement affecter leur destinée. C'est ça, c'est un sens de marginalisation ce n'est pas nécessairement un problème un problème économique, c'est surtout un problème social.
Tout à fait. On va prendre Rahim au Burkina Faso. Rahim, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oh, désolé de t'avoir fait attendre si longtemps. Qu'est-ce que tu penses donc de ce débat?
En fait, je trouve ce débat très intéressant à partir du moment où le problème est très récurrent. Quand on prend le cas du Burkina Faso ici, parce que les étudiants se mettent en grève comme ça pour prendre possession de leurs droits, bon, souvent les autorités refusent d'installer un dialogue franc comme ça. Bon, tout cela est un peu exagéré. Si l'on prend la situation qui est produite récemment, c'est-à-dire en fin septembre comme ça, les étudiants qui étaient allés en congé, voilà, ils sont revenus, ils trouvaient que les cités universitaires étaient fermées. Donc, ils ne comprenaient pas la situation et ont voulu savoir ce qui se passe. Alors, à cette période-là, il y avait un jour et depuis le 5 septembre, quand le gouvernement a dû reporter la rentrée. Donc, les étudiants qui n'ont pas eu information à propos de ce report-là ont voulu manifester. Donc, c'est ce que le gouvernement et le gouvernement les a empêchés. Donc, il a fallu fin septembre pour que les étudiants puissent avoir accès aux cités universitaires.
Voilà.
Les autorités refusent d'installer, d'instaurer un dialogue entre les étudiants et puis les différents ministères concernés. Et moi, je trouve cela anormal.
Voilà, vous trouvez cela anormal. On a également eu sur Facebook des réactions d'Alphonse Mbouaki qui a évoqué beaucoup de sujets. On ne peut pas lire tout cela ici, mais on tenait à te dire merci, Alphonse. On a un autre auditeur au téléphone. Allô, bonsoir.
Oui, allô, bonsoir, monsieur.
Oui.
Vous allez bien?
Je vais très bien. En quelques secondes, qu'est-ce que vous pensez de ce débat?
Le débat du jour.
Oui. Alors, le militantisme étudiantin. Voilà quelques réactions qu'on a eues sur Facebook. Le militantisme, ça c'est une réaction qui nous vient de Yves Malango. Le militantisme à Kinshasa devient quelque chose à craindre. Combien de fois nous avons pu pleurer nos camarades, tout simplement, parce qu'ils se sont montrés courageux pour défendre leurs intérêts. On a également cette réaction de la RDC, de Berlin Kabengele. En Afrique, les manifestations ne réussissent pas parce que nous sommes contrecarrés par les dirigeants africains qui sont eux-mêmes dirigés par les Occidentaux. Comment voulez-vous qu'un dirigeant dirigé accepte la correction? Une autre réaction au téléphone. Pas de réaction au téléphone. Je vais revenir pour dire merci au professeur Jean-Germain Gross et à Corentin Tala qui nous ont accompagnés. Alors, un dernier commentaire en quelques secondes, professeur Gross.
Oui, je dirais que l'université de Missouri, c'est une université qui doit faire des changements. On a beaucoup de problèmes ici, surtout chez les étudiants noirs. Mais je pense qu'avec l'arrivée de nouveau chancelier, M. Mike Middleton, eh bien, qui est un noir, eh bien, on va avoir des changements, bien que je ne pense pas que M. Middleton va résoudre tous les problèmes. Mais c'est un pas dans la bonne direction.
Merci, professeur Corentin. En un mot.
Ouais, j'aimerais dire que les étudiants doivent continuer à se battre pour leurs droits, pour un changement positif de la société camerounaise en général et des conditions de vie des étudiants en particulier, car ce sont les avant-gardistes du changement. Ils doivent prendre leur destin en main et continuer à se battre et ne pas se laisser intimider par le gouvernement.
Merci à tous nos invités. Merci à Michel Joseph. Merci à Georges Léonard Sagno. Merci à Sidrac Franklin. C'était l'Amérique et vous. John Lyndon était à la présentation. Au plaisir.